avec Nathalie Amar, du lundi au vendredi à 15h10 TU sur
RFI, 7h30 à Paris, 6h30 en temps universel, il est 8h30 à Goma.
Nemo en piste.
Il y a quasiment autant de civils que de combattants soignés dans les hôpitaux en ce début d'année dans l'est de la RDC. C'est en tout cas le constat que dressent des organisations humanitaires basées dans la province du Nord Kivu où les affrontements se sont intensifiés. Les discussions entre Kigali et Kinshasa sont, elles, au point mort. Cela malgré les efforts de plusieurs médiateurs parmi lesquels João Lourenço, le président angolais en visite d'État en France ce jeudi. Il évoquera le sujet avec son homologue Emmanuel Macron. Après ce journal, vous entendrez le témoignage d'une épouse d'un jeune Camerounais enrôlé par la Russie pour aller combattre en Ukraine. Une compagne sans nouvelles depuis juillet 2024. Deuxième semaine d'audience au procès dit du financement libyen présumé de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. La justice française s'est penchée en début de semaine sur les voyages de l'intéressé en Libye en 2005. La Libye et ses images de torture diffusées sur les réseaux sociaux, elles ont été tournées dans les murs de la prison de Guernada dans l'est du pays, contrôlée par le maréchal Khalifa Haftar. Les organisations humanitaires basées dans la province du Nord Kivu inquiètent du nombre croissant de blessés de guerre causés par les combats dans l'est de la République démocratique du Congo entre l'armée et le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. Depuis le 1er janvier de cette année, Médecins sans frontières mais aussi le Comité international de la Croix-Rouge ont reçu pas moins de 400 patients dans le territoire de Masisi et à Goma, alors que les combats ont encore gagné en intensité dans la province. À Goma, pour RFI, Héritier Baraka.
Les hôpitaux de Numbi et Minova dans la province voisine du site Kivu ont accueilli 192 blessés, celui de Nyabiondo 81, tous soignés par Médecins sans frontières MSF. Le CICR, une autre organisation humanitaire qui intervient dans la prise en charge des blessés de guerre, craint la détérioration de ces situations dans les jours à venir, comme l'explique Myriam Favier, chef de la sous-délégation CICR à Goma.
Rien que sur CBKN Docho, par exemple, on a reçu 138 blessés entre le 1er et le 12 janvier, qui est quand même assez alarmant. C'est que si la tendance initiale était de recevoir plus de porteurs d'armes que de civils, ces deux dernières semaines ont prouvé que la tendance est en train de, en tout cas, s'équilibrer et qu'il y a énormément de civils qui sont malheureusement touchés. Donc on doit rappeler aux parties au conflit qu'il faut respecter le droit international humanitaire. On a entendu que le centre de santé de Ngungu aurait été touché.
Selon le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU au Tchad, plus de 100 000 personnes ont fui les combats depuis début janvier. Mercredi, de violents affrontements étaient encore en cours. Silax Ngungu dans les Masisi, à 70 km à l'ouest de Goma. Héritier Baraka, Goma, RFI.
Une situation déplorée par les églises catholiques et protestantes du pays. Elles sont à l'initiative d'un pacte dit social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs. Les sombres perspectives d'une catastrophe humanitaire aux conséquences incalculables se précisent, lancent les églises dans un communiqué. Je vous propose d'écouter l'un des signataires de cette feuille de route, le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Donatien.
Pourquoi maintenant? C'est simplement parce que le constat est très amer au regard de ce qui se passe dans le pays, particulièrement à l'Est. 30 ans après, on voit les limites de la guerre, on voit les limites de la diplomatie. Entre-temps sur terrain, mais c'est une situation humanitaire indescriptible. Nous voulons amener la majorité des Congolais à comprendre que la priorité aujourd'hui, c'est la paix. La paix dans notre pays, paix dans la sous-région. Ce n'est pas paix des choses de mettre les gens ensemble pour qu'ils se parlent, pour qu'ils se regardent en face. Ce serait intéressant qu'on arrive à des concertations nationales avec des compatriotes congolais qui ont pris les armes pour qu'ils nous disent pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vraiment, comme chrétiens, comme africains, trouver d'autres alternatives. La CENCO et l'ECC prend l'engagement de faire des plaidoyers au niveau des principaux acteurs sociopolitiques. Nous pensons que cette pierre que les deux églises veulent apporter avec tous ceux qui vont adhérer, ça peut être une solution.
Monseigneur Donatien Chollet, secrétaire général de la CENCO, avec notre correspondant à Kinshasa, Pascal Moulégois. Ce conflit dans l'est de la RDC, on continue d'en parler. Nul doute qu'il sera évoqué ce jeudi à Paris à l'occasion de la visite d'État de João Lourenço. Le président angolais est en France pour 2 jours. Il doit être reçu ce matin par son homologue Emmanuel Macron. Paris, fervent soutien de la tentative de médiation de Luanda dans ce dossier qui oppose la RDC de Félix Tshisekedi au Rwanda de Paul Kagame. L'Élysée l'a confirmé. Lisa Fabian, le sujet sera au cœur des discussions.
La France soutient totalement, soutient fortement, soutient activement le processus de Luanda entre la RDC et le Rwanda. Ce sont les termes martelés par l'Élysée en préambule de cette visite d'État du président Lourenço à Paris. Les efforts de l'Angola dans ce dossier sont très forts, mais ils sont aussi difficiles, je cite, particulièrement depuis l'échec du sommet qui devait réunir les présidents congolais et rwandais en décembre. L'Élysée assure que tous les sujets seront mis sur la table au cours de cette entrevue entre Emmanuel Macron et son homologue angolais, avec pour objectif de faire avancer la paix et de relancer le processus de Luanda. Des sources diplomatiques occidentales ont révélé récemment que la question des sanctions contre le Rwanda n'est plus un tabou, même si les pays africains, notamment ceux qui siègent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, se montrent toujours très réticents. Le sujet pourrait donc être abordé à Paris afin de pousser João Lourenço à agir en sa qualité de médiateur et de futur président de l'Union africaine. Jusque-là, l'organisation continentale n'a jamais évoqué la présence de militaires rwandais dans l'est de la RDC, présence pourtant attestée par plusieurs rapports des Nations Unies.
Cette visite est l'occasion également de renforcer les liens bilatéraux et de faire le point sur les grands sujets régionaux et internationaux, alors que dès le mois prochain, l'Angola doit prendre la présidence tournante de l'Union africaine. Des dossiers économiques doivent également se retrouver sur la table avec la finalisation de contrats et de financements, notamment dans le domaine de l'eau ou encore des satellites. Sur cette visite d'État, l'un de nos invités ce matin était Didier Péclard, professeur de sciences politiques et d'études africaines à l'Université de Genève. Il est au micro de Christophe Boisbouvier, entretien à retrouver sur l'application RFI Pure Radio. Une question dans ce journal, y a-t-il des réserves pétrolières dans le lac Kivu ? Elle a été soulevée hier après une annonce faite par Kigali qui affirme avoir identifié de potentiels puits de ce précieux or noir, et cela donc dans les profondeurs de ce bassin de près de 2700 km² partagé par le Rwanda et la République démocratique du Congo. RFI Kigali, Lucie Mouillot.
Selon l'agence gouvernementale du RMB, le Bureau rwandais des mines, du pétrole et du gaz, une étude sismique commandée par Kigali identifie 13 sites de forage potentiels pour confirmer la présence d'hydrocarbures dans le bassin du lac Kivu. Une annonce qui rectifie la déclaration faite plus tôt ce mercredi pendant une réunion parlementaire par le PDG du RMB sur la découverte de pétrole. La présence de l'or noir dans le Kivu n'est pas encore prouvée, mais la nouvelle étude indique des occurrences d'hydrocarbures dans le lac. L'agence publique appelle dans un communiqué à la participation de nouveaux acteurs pour les prochaines étapes. Les recherches sur de potentiels puits de pétrole durent depuis plus d'une décennie. En 2017, Kigali et Kinshasa avaient même signé un accord d'exploration de 5 ans, dont les conclusions n'ont pas été rendues publiques. Le lac Kivu est déjà source d'énergie pour le Rwanda à travers l'exploitation des très larges quantités de méthane piégé dans les profondeurs, transformées pour la production d'une partie de l'électricité du pays. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Deuxième jour à Moscou pour Faustin Archange Touadéra. Le président centrafricain doit rencontrer ce jeudi son homologue russe Vladimir Poutine. Au programme des discussions entre les deux dirigeants, l'État et les perspectives de développement de la coopération bilatérale dans différents domaines, pêle-mêle politique, commerciale, économique, humanitaire ou encore sécuritaire. Au volet judiciaire de cette édition, l'ouverture hier à Lomé du procès dit du Trading Gate, dans lequel on reproche à plusieurs responsables de sociétés de trading placées sous mandat de dépôt depuis 2021 de s'être prêtées à des activités illégales. De nombreuses victimes venues de tout le Togo se sont rendues devant le tribunal de Lomé en espérant revoir ou au moins en partie revoir leur argent perdu. La correspondance de Peter Sassou-Dogbé.
Ils sont 13 dans le box des accusés, 20 sont toujours en cavale. Pour la plupart des responsables de sociétés de placements illégales au Togo ou leurs collaborateurs, ils sont accusés d'être impliqués à divers niveaux dans une vaste opération d'escroquerie. des milliers d'épargnants et d'investisseurs victimes pour un préjudice estimé à plusieurs milliards de francs CFA. Selon la présidente du collectif des victimes de trading, Ayaba Sada, sa seule organisation représente 3000 personnes qui ont perdu 5 milliards de francs CFA. Ouvriers, fonctionnaires, cadres et militaires ont mordu à la meçon de cette pyramide de Ponzi. Des promesses de gains de 50, 100 voire 300% à la fin. Nombreux sont ceux qui n'ont rien obtenu. Conséquence de cette perte, confie la présidente du collectif, des victimes devenues malades, endettées, des couples disloqués faute d'argent. Venus au tribunal mercredi, tous espèrent un remboursement de leurs capitaux et une éventuelle indemnisation. Peter Sassou Dobé, Lomé, RFI.
Et sachez que le procès a été renvoyé au 13 février prochain. Justice toujours, la deuxième semaine dans le procès dit du financement libyen présumé de la campagne présidentielle de 2007, celle qui a permis à Nicolas Sarkozy d'arriver au pouvoir en France. Les interrogatoires se poursuivent sur l'hypothèse d'un pacte de corruption noué fin 2005 entre l'ex-président et Muammar Kadhafi et ses éventuelles contreparties diplomatiques, économiques ou juridiques. Et cette semaine, la Cour se penche sur les voyages de Nicolas Sarkozy en Libye à l'automne 2005. Il était alors ministre de l'Intérieur et était accompagné de Claude Guéant, son directeur de cabinet, et de Brice Hortefeux, ministre à l'époque délégué aux collectivités locales. Ont été entendus en début de semaine un ancien ambassadeur à Tripoli ainsi qu'un ancien commissaire. Laura Martel suit le procès pour RFI.
Jean-Luc Sibiud, ex-ambassadeur, n'a aujourd'hui aucun souvenir de la visite de Claude Guéant. Une visite censée préparer celle de Nicolas Sarkozy, considérée elle comme très importante par les Libyens, conscients d'avoir affaire à un potentiel futur président, souligne-t-il. À cette occasion, un bref aparté aurait eu lieu entre Nicolas Sarkozy et Muammar Kadhafi sous la tente, selon l'autre témoin du jour, le commissaire. Mais l'ex-ambassadeur affirme lui que les deux hommes se seraient éloignés une trentaine de minutes pour un entretien exclusivement privé avec leurs interprètes. À l'époque, ils n'avaient pu en savoir plus, la traductrice française lui opposant le secret professionnel. Pour l'accusation, c'est là qu'aurait été noué le pacte de corruption. Parmi les contreparties envisagées, le parquet pointe le sort juridique d'Abdallah Senoussi, ex-patron des renseignements condamné à perpétuité en France pour l'attentat contre le décédiste du TA. Or, et Claude Guéant et Brice Hortefeux ont reconnu l'avoir rencontré lors de leur visite. Ils affirment avoir été piégés. Mais il semble difficile pour un ministre d'ignorer la situation de M. Senoussi, relève un juge. Oui, surtout quand on va en Libye, complète l'ambassadeur dans un sourire. Le diplomate souligne d'ailleurs que pour lui, la visite de Brice Hortefeux n'était pas banale et l'avait d'autant plus surpris que l'intérêt des Libyens pour les collectivités locales, le portefeuille de Brice Hortefeux, était très limité, remarque-t-il.
La Libye et la mission des Nations Unies sur place qui fait part de son inquiétude face à des images circulant sur les réseaux sociaux. On y voit des tortures et des mauvais traitements brutaux infligés à des détenus dans le centre de détention de Guernada, dans l'est du pays, partie contrôlée par les hommes du maréchal Khalifa Haftar. Les détails avec Ouda Ibrahim.
La mission d'appui de Nations Unies en Libye condamne fermement ces actes qui constituent de graves violations des droits de l'homme. Elle appelle à une enquête immédiate sur ces accusations et affirme se coordonner avec le commandement général de l'armée nationale libyenne pour permettre à ses spécialistes et à d'autres observateurs indépendants d'accéder sans restriction au centre de rétention de Guernada. La Manul réclame l'accès également à d'autres centres de rétention situés à l'est libyen. Ces images constituent, selon l'ONU, une illustration documentée de violations de droits de l'homme à travers la Libye. Dans les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on voit des personnes qui sont, selon leur accent de nationalité, syrienne, égyptienne ou libyenne, en train d'être malmenées et torturées. Selon une source de droits de l'homme en Libye, il s'agit des personnes arrêtées en 2019 lors de la tentative du maréchal Haftar de prendre Tripoli avant d'être incarcérées à Guernada, près de la ville d'Al-Baïda. Les vidéos proviendraient d'anciens prisonniers qui ont quitté la Libye.
Explication Ouda Ibrahim.